Chapitre 6. Lydgate devait le lendemain aller à Brassing, et il prévint Rosemonde qu'il serait absent jusqu'au soir. Elle n'était, depuis ces derniers temps, sortie de la maison et du jardin, que pour aller à l'église, et une fois chez son père. « Si Tertius s'en va, lui avait-elle demandé, vous nous aiderez pour le déménagement, n'est-ce pas, papa ? Nous aurons, je crois, très peu d'argent. Je compte et j'espère qu'on nous aidera. » Et M. Vincey avait répondu, « Oui, mon enfant, je ne regarderai pas à une ou deux centaines de livres. Je puis aller jusque-là. » En dehors de cette demande, Rosemonde, mélancolique et languissante, était restée chez elle, attendant. Elle s'attachait à l'arrivée de Will Ladislav comme au seul point d'intérêt et d'espoir dans sa vie. Elle associait à cette circonstance quelques nouveaux moyens de décider Lydgate à prendre ses dispositions pour quitter promptement Middlemarch, et sans voir aucunement de quelle manière, elle finit par se persuader à elle-même que cette arrivée serait pour eux une puissante raison de hâter leur départ pour Londres. Tel était le cours des idées qui occupaient la pauvre Rosemonde, tandis qu'elle rangeait tous les objets autour d'elle avec le même soin qu'auparavant, seulement avec plus de lenteur, s'asseyant au piano avec l'intention de jouer, puis changeant d'idée et s'attardant sur le tabouret, ses doigts blancs suspendus à l'extrémité des touches, regardant devant elle dans un ennui rêveur. Sa mélancolie était devenue si visible que Lydgate éprouvait devant elle une étrange timidité, comme devant un perpétuel et silencieux reproche. Et cet homme fort, maîtrisé par la vivacité de ses sentiments pour cette blonde et fragile créature dont il semblait avoir en quelque sorte meurtri la vie, reculait devant son regard et quelquefois tressaillait à son approche. La crainte qu'il avait d'elle et la crainte qu'il avait pour elle le ressaisissaient avec une nouvelle force après l'apaisement de l'exaspération qui les avait momentanément bannis. Dans la matinée de ce jour, Rosemonde descendit de sa chambre d'en haut, où elle restait parfois assise tout le jour, quand Lydgate était sorti, toute prête et habillée pour aller en ville. Elle avait une lettre à faire partir, une lettre pour M. Ladislav, écrite avec une réserve charmante, mais avec l'intention évidente, en faisant allusion à certains soucis, de hâter son arrivée. La servante, leur seule domestique maintenant, la vit descendre l'escalier dans sa robe de promenade, et elle pensa « Jamais chapeau n'a abrité plus jolie pauvre créature. » Pendant ce temps, l'esprit de Dorothée était tout à fait à son projet d'aller voir Rosemonde et à la foule de pensées appartenant à la fois au passé et à l'avenir probable qui se groupait autour de cette visite. Jusqu'à la veille encore, où Lydgate lui avait laissé entrevoir quelque chose des chagrins de sa vie conjugale, l'image de Mrs. Lydgate était restée associée pour elle à celle de Will Ladislav. Même à ses heures de plus grand trouble, même en écoutant les bavardages aussi pénibles que pittoresques de Mrs. Cadwallader, ses efforts, son premier mouvement, plutôt encore sa plus forte impulsion, avaient toujours été de défendre Will de tout soupçon fâcheux. Et quand plus tard, au début de son entretien avec lui, elle avait cru voir dans ses paroles comme une allusion à un sentiment pour Mrs. Lydgate, auquel il était résolu à ne pas se laisser aller, elle avait eu pour excuser Will une rapide et triste vision du charme que devaient offrir ses continuelles occasions d'intimité avec cette jolie créature, qui probablement partageait tous ses goûts comme elle partageait ses jouissances musicales. Mais il avait prononcé ces paroles d'adieu, ces paroles passionnées où il avait laissé entendre que l'objet de cet effort d'amour c'était elle-même, qu'à elle seule allait cet amour, qu'il était résolu à ne pas déclarer, mais à emporter avec lui dans l'exil. Depuis ce moment, Dorothée, croyant à l'amour de Will pour elle-même, croyant avec un orgueilleux ravissement à son délicat sentiment de l'honneur, à sa résolution de ne jamais justifier les accusations de personne, s'était senti le cœur tout à fait tranquille. Quel que fût le sentiment qui pût l'attacher à Mrs. Lydgate, elle ne doutait plus qu'il fût irréprochable. Il est des natures dont l'amour nous donne l'impression d'une sorte de baptême et de consécration. Elle nous commande, par leur confiance en nous, de nous attacher uniquement à ce qui est droit et pur. Nos fautes deviennent pour elles cette pire espèce de sacrilège qui détruit l'autel invisible de la confiance. Dorothée était une de ces natures. Ses défauts, qui tenaient à son âme passionnée, se montraient au grand jour de son caractère ardent. En même temps qu'elle était pleine de pitié pour les fautes visibles des autres, son expérience ne possédait encore pour le mal caché nul matériau à l'usage des combinaisons subtiles du soupçon. Mais cette ingénuité, qui élevait en elle un idéal pour les autres, dans la conception confiante qu'elle s'en faisait, était une des grandes forces de sa nature de femme. Et cette force, dès le premier moment, avait agi avec toute sa puissance sur Will Ladislav. Il sentait, en la quittant, que les quelques mots si courts, par lesquels il avait essayé de lui faire comprendre son amour et l'abîme que sa fortune créait entre eux, ne pourraient que gagner à avoir été si courts, à l'heure où Dorothée aimerait à les interpréter. Il sentait qu'elle lui avait donné la plus haute place dans son estime, et sur ce point, il ne se trompait pas. Durant les mois qui s'étaient écoulés depuis leur séparation, Dorothée avait ressenti une triste mais délicieuse tranquillité dans la fidélité sans tache de leur mutuel rapport. Elle avait au-dedans d'elle une force active de résistance quand il s'agissait de défendre les intentions ou les personnes auxquelles elle avait foi. Le tort que Will avait éprouvé du fait de son mari, les conditions extérieures qui le rendaient pour d'autres un objet de mépris, ne faisait que fortifier son affection et exalter son estime. Et maintenant que les révélations sur le comte de Bulstrode venaient de jeter un jour nouveau sur les origines de Will, ce sentiment de résistance intérieure ne faisait que grandir encore chez Dorothée, en face de tout ce qui se disait contre lui dans cette partie de son univers contenue entre des clôtures de parc. À Lowick, à Tipton, à Freshit, dans toutes les conversations sur l'affaire Bulstrode, c'était toujours sur ce jeune Ladislav, petit-fils d'un juif, prêteur sur gage et voleur, qu'on appuyait, en collant l'affront au dos du pauvre Will, comme un placard autrement terrible que l'Italien marchand de souris blanche. Le loyal Sir James Chatham voyait avec satisfaction ses préventions personnelles justifiées, quand il songeait, non sans complaisance, qu'à la distance déjà énorme qui séparait Ladislav de Dorothée, une distance nouvelle venait de s'ajouter, le délivrant de ce côté de toute inquiétude, désormais trop absurde. Et peut-être avait-il éprouvé un certain plaisir à diriger l'attention de M. Brooke sur ce vilain point de la généalogie de Ladislav, comme pour lui faire voir ses illusions à la lumière de ce nouveau flambeau. Dorothée avait remarqué avec quelle animosité on avait plus d'une fois rappelé ce qui, dans cette terrible histoire, avait trait à Will. Mais elle avait gardé un silence absolu. Il ne lui était plus aussi facile de parler de Will depuis qu'un lien plus profond existait entre eux, un lien consacré par le mystère même qui devait à jamais l'envelopper. Mais ce silence accrut encore, dans leur ténacité, l'ardeur de ses sentiments. Et ce malheur dans la destinée de Will, dont d'autres se réjouissaient à ce qu'il semblait de lui jeter l'opprobre au visage, ne fit qu'exalter l'enthousiasme de la pensée toujours fidèle de Dorothée. Elle ne nourrissait pas le rêve d'une union plus intime avec lui, mais elle n'avait pas pris pour cela l'attitude du renoncement. Elle avait accepté très simplement tout ce qu'il avait attaché à Will comme faisant partie des soucis de son mariage, et se fut reproché d'entretenir en elle-même un chagrin intérieur de ce qu'elle n'était pas complètement heureuse. Elle était bien plutôt disposée à se plaindre des superfluités de son sort. Il lui suffisait alors que les plus grandes joies de sa tendresse fussent toutes dans le souvenir. Et l'idée du mariage ne se présentait à elle que sous la mention désagréable de quelques prétendants dont elle ne savait rien, mais dont les mérites bien établis aux yeux de sa famille ne seraient pour elle qu'une cause de tourment. Quelqu'un qui gouvernera votre fortune pour vous, ma chère. Telle était la forme attrayante donnée par M. Brooke à ses indications sur le caractère qui pourrait le mieux lui convenir dans son futur époux. J'aimerais à avoir moi-même la direction de ma fortune, si je savais qu'en faire, dit Dorothée. Elle demeurait ainsi inébranlable dans sa résolution de ne jamais se remarier. Mais dans la longue vallée de sa vie, qui semblait si monotone et si dénuée de tout point lumineux, tandis qu'elle marcherait le long de la route au milieu de ses compagnons de voyage, une main amie viendrait à elle pour l'aider à se diriger. C'était dans ses sentiments pour Will Ladislav qu'elle s'absorbait à ses heures de veille, et depuis qu'elle s'était décidée à aller voir Mrs. Lydgate, l'image de Rosemonde se détachait sur cet arrière-plan habituel de ses préoccupations, sans que rien gênât l'élan de sa compassion et de son intérêt. Il y avait, à n'en pas douter, quelques séparations morales, quelques barrières empêchant une confiance absolue entre cette épouse et ce mari qui s'était cependant fait une loi du bonheur de sa femme. C'était là un chagrin auquel nulle tierce personne ne pouvait directement toucher. Mais Dorothée songeait avec une profonde pitié à la solitude dans laquelle avait dû être laissée Rosemonde depuis les soupçons dont son mari avait été victime. Il lui serait doux, certainement, de voir qu'il existait encore du respect pour Lydgate et de la sympathie pour elle. « Je lui parlerai de son mari, » se disait Dorothée, comme sa voiture l'emportait vers la ville. La claire matinée de printemps, la senteur de la terre humide, les feuilles fraîches entr'ouvrant leurs gaines juste assez pour laisser pointer leur trésor de verdure encore enroulé en plis serrés, tout semblait faire partie de l'heureuse impression qu'elle emportait d'une longue conversation avec M. Fairbrother. Le vicaire avait accueilli avec joie la justification de la conduite de Lydgate. « Je porterai de bonnes nouvelles à Mrs. Lydgate, et peut-être aimera-t-elle à causer avec moi et à me prendre pour ami. » Dorothée avait une autre course à faire dans Lowickgate. Elle voulait une jolie cloche neuve pour la maison d'école. Et comme elle était descendue de voiture très près de chez Lydgate, elle traversa la rue à pied pour se rendre chez lui. La porte de la rue était ouverte, et la servante profitait de la circonstance pour examiner la voiture arrêtée à quelques pas, lorsqu'elle vit venir à elle la dame de la voiture. « Mrs. Lydgate est-elle chez elle ?» demanda Dorothée. « Je n'en suis pas sûr, milady. Je vais aller voir si vous voulez vous donner la peine d'entrer, » dit Marthe, un peu confuse de son tablier de cuisine, mais encore assez calme pour être sûre que le mot « madame » n'eût pas été le titre qu'il fallait pour cette jeune veuve à l'air de reine qui avait une voiture et une paire de chevaux. « Veuillez vous donner la peine d'entrer et j'irai voir. Dites que c'est Mrs. Casaubon, » dit Dorothée, comme Marthe prenait le devant pour la faire entrer au salon. Elles traversèrent le corridor d'entrée dans sa partie la plus large et prirent le passage qui menait au jardin. La porte du salon était entr'ouverte. Marthe la poussa sans regarder à l'intérieur et attendit, avant de s'éloigner, que Mrs. Casaubon fût entrée. La porte avait ainsi été ouverte et refermée sans bruit. Dorothée, ce jour-là, était moins disposée encore que de coutume à faire attention aux choses extérieures, tout occupée qu'elle était à se représenter ce qui avait eu lieu et ce qui allait avoir lieu. Elle se trouva dans la chambre sans d'abord apercevoir rien de particulier. Mais presque aussitôt, elle entendit une voix parlant bas, qui la fit tressaillir comme avec le sentiment qu'elle rêvait tout éveillée. Et s'avançant d'un ou deux pas, au-delà du rayon en saillie d'une bibliothèque, elle vit, à la terrible lumière d'une certitude qui éclaira pour elle tous les contours du tableau, quelque chose qui la fit s'arrêter immobile, sans avoir assez d'empire sur elle-même pour parler. Elle vit de dos Ladislav assis sur un sofa adossé au mur du même côté que la porte par laquelle elle était entrée. Tout près de lui, le visage regardant son visage avec une rougeur fiévreuse et des larmes dans les yeux qui donnaient un nouvel éclat à sa physionomie, Rosemonde était assise, son chapeau pendant en arrière, tandis que Will, penché sur elle, serrait dans les siennes ses deux mains levées vers lui et à voix basse lui parlait avec ferveur. Rosemonde, tout absorbée et émue, n'avait pas remarqué la personne qui s'était sans bruit avancée derrière eux. Mais quand Dorothée, après le premier instant qui ne fut qu'un éclair, recula confuse et, en s'arrêtant, heurta un meuble, Rosemonde s'aperçut tout à coup de sa présence et, par un rapide mouvement nerveux, détacha ses mains de celles de Will et se leva, regardant Dorothée qui restait immobile devant eux. Will Ladislav, se levant brusquement, regarda aussi autour de lui, et rencontrant les yeux de Dorothée, où brillait un nouvel éclat, il parut changé en statue. Mais elle, détournant de lui ses regards pour les reporter sur Rosemonde, dit d'une voix assurée, « Excusez-moi, Mrs. Lydgate, la femme de chambre ne savait pas que vous étiez ici. Je suis venu apporter pour M. Lydgate une lettre importante que je désirais vous remettre à vous-même. » Elle déposa sa lettre sur la petite table qui avait gêné sa retraite. Puis, embrassant Rosemonde et Will dans un même regard et un même salut à distance, elle sortit rapidement de la chambre. Marthe, qu'elle rencontra toute surprise dans le corridor, lui dit qu'elle était bien fâchée que Madame ne fût pas à la maison, puis reconduisit jusqu'à la porte l'étrange lady, faisant en elle-même cette réflexion que les gens du grand monde étaient sans doute plus pressés que les autres. Dorothée traversa la rue de son pas le plus rapide et fut en un instant remontée dans sa voiture. « À Freshit Hall, » dit-elle au cocher. Un peu plus pâle seulement que de coutume, elle n'avait jamais été animée d'une énergie plus maîtresse d'elle-même, et elle venait véritablement de la mettre à l'épreuve. C'était comme si elle avait bu une grande gorgée de mépris qui la stimulait jusqu'à la rendre insensible à tous les autres sentiments. Ce qu'elle avait vu était si loin de tout ce qu'elle pouvait imaginer que ses émotions reculaient tumultueuses devant cette image et s'amassaient en elle sans raison et sans objet. Son excitation avait besoin d'agir. Elle se sentait la force de marcher et de travailler tout un jour sans boire ni manger. Elle ferait ce qu'elle avait résolu de faire le matin même. Elle irait à Freshit et à Tipton dire à Sir James et à son oncle tout ce qu'elle voulait qu'ils sussent au sujet de Lydgate, dont l'isolement dans le mariage, au milieu d'une si cruelle épreuve, se présentait maintenant à elle avec une signification nouvelle et la rendait plus ardente et plus empressée à se faire son champion. Jamais, durant toute la lutte de sa vie conjugale, elle n'avait rien ressenti de pareil à cette puissance triomphante de l'indignation, parce qu'alors il y avait toujours eu de sa part un mouvement de soumission rapide et douloureux. Elle put croire à une force nouvelle en elle. « Dodo, comme tes yeux sont brillants !» dit Celia, quand Sir James eut quitté la chambre. « Et tu ne vois rien de ce que tu regardes, ni Arthur, ni personne. » « Tu es sur le point de faire quelque extravagance, j'en suis sûr. S'agit-il de Lydgate ou de quelque autre chose ?» Celia avait l'habitude d'observer sa sœur tout en attendant sa réponse. « Oui, chérie, bien des choses se sont passées, » dit Dorothée de sa voix pleine. « Je me demande lesquelles, » dit Celia, se croisant agréablement les bras et se penchant en avant. « Oh, toutes les peines de tous les malheureux sur la surface de la terre !» répondit Dorothée, levant les bras et les croisant derrière sa tête. « Grand Dieu, Dodo, vas-tu faire des plans pour eux ?» s'écria Celia, un peu troublée par cette divagation à la Hamlet. Mais Sir James entra, prêt à accompagner Dorothée à la grange. Et elle mena à bonne fin tout ce qu'elle voulait faire, sans fléchir un instant dans sa résolution, jusqu'au moment où elle descendit devant la porte de sa demeure. Chapitre 7. Rosemonde et Will restèrent debout, immobiles, ils ne surent pas combien de temps, lui regardant la place où avait été Dorothée, elle le regardant d'un air incertain. Mais ce temps parut interminable à Rosemonde. Ce qui venait de se passer avait à peine laissé au fond de son âme plus d'ennui que de satisfaction. Les natures superficielles s'imaginent avoir sur les émotions des autres un empire facile, se fiant à leur chétif pouvoir pour détourner les courants les plus profonds, assurer que quelques phrases, quelques gestes gracieux suffiront à donner l'existence à ce qui n'existe pas. Elle savait que Will avait reçu un coup violent, mais elle n'avait guère été habituée à se figurer l'état d'esprit des autres, autrement que comme une matière à laquelle ses propres désirs donnaient la forme voulue. Elle croyait à son pouvoir d'apaiser et de vaincre. Tertius lui-même, avec sa détestable humeur, finissait toujours, à la longue, par être vaincu. Les événements s'étaient acharnés contre elle, et néanmoins, Rosemonde eut encore répété aujourd'hui ce qu'elle disait avant son mariage, qu'elle ne renonçait jamais à ce qu'elle avait une fois résolu. Elle étendit le bras et posa le bout de ses doigts sur le bras de Will. « Ne me touchez pas !» fit-il d'un ton qui cinglait comme un coup de fouet. Il s'éloigna d'elle, rougissante et pâlissant tour à tour, comme si cette blessure faisait frémir de douleur tout son être. Il se retira à l'autre extrémité de la chambre, puis, se retournant, se tint debout en face d'elle, regardant avec colère non pas Rosemonde, mais un coin de la chambre à quelques pas d'elle. Elle était vivement offensée, mais les signes qui trahissaient son émotion étaient de ceux que Lydgate seul savait interpréter. Elle se calma soudain et s'assit, dénouant son chapeau et le déposant auprès de son châle. Ses petites mains glacées se croisaient sur ses genoux. Will eut plus sagement agi de prendre son chapeau et de s'en aller. Mais il n'y pensait pas. Au contraire, il avait une envie horrible de rester et d'accabler Rosemonde de sa colère. Il lui semblait aussi impossible de supporter, sans donner un libre cours à sa fureur, la fatalité qu'elle avait attirée sur lui, qu'il le serait à une panthère de supporter la blessure du javelot sans bondir et sans mordre. Et cependant, comment dire à une femme qu'il était tout près de la maudire ? Il frémissait sous l'empire d'une loi qu'il ne pouvait méconnaître, mais devant cette barrière, son équilibre était bien menaçant, et la voix de Rosemonde amena le choc décisif. D'un accent de sarcasme, semblable à des sons de flûte, elle dit « Il ne tient qu'à vous de courir après Mrs. Casaubon et de lui expliquer votre préférence. » « Courir après elle !» s'écria-t-il d'une voix perçante. « Croyez-vous qu'elle se retournerait pour me regarder, ou qu'elle ferait maintenant plus le cas d'une parole de moi que d'une vieille plume salie ? Expliquer ? Comment un homme peut-il s'expliquer aux dépens d'une femme ?»« Vous pouvez lui dire tout ce que vous voudrez, » dit Rosemonde d'une voix plus tremblante. « Supposez-vous qu'elle m'en aimerait mieux parce que je vous sacrifierais ? Elle n'est pas femme à être flattée de me voir m'avilir. » À me croire sincère envers elle, parce que j'aurais été lâche avec vous. » Il commença à se promener avec agitation par la chambre, comme une bête sauvage qui voit sa proie sans pouvoir l'atteindre. Puis il éclata de nouveau. « Je n'avais pas d'espoir auparavant, ou bien peu, en quelque chose de meilleur. Mais j'avais une certitude, la certitude qu'elle croyait en moi. Quoi qu'on eût dit ou fait contre moi, elle croyait en moi. C'en est fait. Elle ne me regardera plus que comme un misérable fourbe, ce délicat, ce raffiné qui ferait ses conditions avant d'accepter le ciel, et qui, à la sourdine, allait se vendre au diable dans je ne sais quel marché. Elle me regardera comme une insulte vivante pour elle depuis le premier instant où nous... » Will s'arrêta. On eût dit que sa main avait rencontré un objet qu'il devait prendre garde de heurter et de briser. Il trouva une autre issue à sa rage, en relevant encore une fois les paroles de Rosemonde, comme on poursuit les reptiles pour les écraser et les jeter au loin. « Expliquez. Dites à un homme d'expliquer comment il est tombé en enfer. Expliquez ma préférence. Je n'ai jamais eu de préférence pour elle. Pas plus que je n'ai de préférence pour l'air que je respire. Il n'existe pas d'autre femme à côté d'elle. J'aimerais mieux toucher sa main à elle morte que celle de toute autre femme vivante. » Rosemonde, tandis que Will lançait contre elle ses traits empoisonnés, perdait presque le sentiment d'elle-même et croyait s'éveiller à quelque nouvelle et terrible existence. Elle n'éprouvait pas ce besoin de se justifier, ni aucun sentiment de répulsion froide et résolue, tel qu'elle en avait connu lors des éclats les plus orageux de Lydgate. Toute sa sensibilité était concentrée dans une souffrance nouvelle et affolante. Elle se sentait anéantie et terrifiée sous un coup dont elle n'avait jamais fait l'épreuve auparavant. Ce qu'une autre nature ressentait en opposition avec la sienne se gravait et s'imprégnait comme du feu dans sa conscience. Quand Will eut cessé de parler, elle était devenue comme une image morbide de la douleur. Ses lèvres étaient pâles et ses yeux sans larmes avaient une expression d'effroi. Si c'eût été Tertius qui se fût trouvé là en face d'elle, ce regard de souffrance eût été une torture pour lui. Il l'aurait prise sur son cœur pour la consoler, consolation au bras rigoureux qu'il avait souvent laissé si froide. Pardonnons à Will de n'avoir pas eu alors un semblable mouvement de pitié. Aucun lien antérieur ne l'attachait à cette femme qui avait gâté le trésor idéal de sa vie, et il se trouvait sans reproche. Il se savait cruel, mais il n'éprouvait encore aucun attendrissement. Il continuait à marcher avec agitation et presque inconsciemment, et Rosemonde restait assise dans une complète immobilité. À la fin, Will, semblant se raviser, prit son chapeau, mais s'arrêta encore un instant, irrésolu. Il lui avait parlé d'une façon qui rendait difficile d'énoncer ensuite une phrase de banale politesse. Et cependant, après en être venu au point de la quitter sans une parole de plus, il reculait devant une telle brutalité. Il se sentait arrêté et anéanti dans sa colère. Il se dirigea vers la cheminée, y appuya le bras et attendit en silence. Il ne savait pas quoi. Une ardeur de vengeance brûlait encore en lui. Et il ne pouvait rien dire qui ressemblât à une rétractation. Néanmoins, il réfléchissait que, revenu à ce foyer où il avait joui des charmes de l'intimité, il y avait trouvé l'infortune établie. Un souci qui avait son siège aussi bien hors de la maison qu'au dedans s'était soudainement révélé à lui. Et il ressentit, comme la morsure de sourdes tenailles, l'étreinte d'une sorte de pressentiment. Le sentiment que sa propre vie pourrait être un jour asservi à cette femme délaissée qui s'était jetée au-devant de lui dans la morne tristesse de son cœur. Mais une sombre révolte s'élevait dans son âme contre le fait qu'une appréhension rapide lui représentait à l'avance. Et quand ses yeux tombèrent sur le visage atterré de Rosemonde, il lui sembla qu'il était encore le plus à plaindre des deux. Car il faut que la douleur soit entrée dans le sanctuaire glorieux du souvenir avant de pouvoir se changer en pitié. Et c'est ainsi qu'ils restèrent un long moment, face à face, éloignés l'un de l'autre, en silence. La figure de Will, toujours en proie à une rage muette, celle de Rosemonde à une muette douleur. La pauvre enfant était sans force pour faire éclater un cri de passion. C'était un coup trop terrible pour elle que cet écroulement des illusions vers lesquelles avait tendu toutes ses espérances. Son petit univers était en ruine, et abandonnée au milieu de ces ruines, elle se sentait chanceler comme une pauvre affolée. Will souhaitait qu'elle parlât, qu'elle jetât quelque ombre adoucissante sur les cruelles paroles de tout à l'heure qui semblaient se dresser encore entre eux, pour défier toute tentative vers un retour possible d'amitié. Mais elle ne dit rien. Et enfin, avec un effort désespéré sur lui-même, il demanda « Viendrai-je ce soir voir Lydgate ?»« Si vous voulez, » répondit Rosemonde d'une voix qui s'entendit à peine. Et Will sortit de la maison sans que Marthe ait jamais su qu'il y était entré. Après son départ, Rosemonde essaya de se lever de sa chaise, mais elle y retomba évanouie. Lorsqu'elle revint à elle, elle se sentit trop faible pour faire l'effort de se lever et de tirer la sonnette, et elle resta là, sans secours, jusqu'au moment où la servante, étonnée de sa longue absence, eut l'idée, pour la première fois, de la chercher dans les chambres du rez-de-chaussée. Rosemonde lui dit qu'elle s'était sentie tout à coup malade et défaillir, et désirait qu'on l'aidât à remonter. Une fois en haut, elle se jeta sur son lit tout habillée et y resta dans une sorte de stupeur, comme elle l'avait fait une fois déjà dans un jour de mémorable douleur. Lydgate rentra chez lui plus tôt qu'il ne pensait, vers 5h30, et la trouva ainsi. L'idée qu'elle était malade éloigna de lui toute autre pensée. Lorsqu'il lui prit le pouls, Rosemonde arrêta sur lui ses yeux avec plus de persistance qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. Il le remarqua bien vite, et, s'asseyant auprès du lit, passa doucement un bras autour d'elle, et se pencha sur son visage. « Ma pauvre Rosemonde, quelque chose vous a-t-il agité ?» S'attachant à lui, elle éclata en sanglots et en cris convulsifs. Et pendant l'heure qui suivit, il ne fit autre chose que de la consoler et de la soigner. Il pensa que Dorothée était venue la voir et que cette crise de surexcitation nerveuse, dans laquelle il entrait certainement quelques retours d'affection pour lui, devait tenir aux impressions nouvelles que cette visite lui avait causées.